Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Et c'est reparti avec Louis, on continue de parler des hommes et des femmes célèbres.
Parler aujourd'hui d'une institution qui a marqué notre pays, qui a expliqué pourquoi la révolution dans les Hautes-Alpes a été relativement calme. Il y a eu peu d'aristocrates à décapiter, car les Escartons, la République des Escartons, avait déjà, il faut le dire, établi une certaine, je dirais pas égalité, mais une certaine paix sociale. Donc, exemple pour les historiens, les juristes, les Escartons, Briançonnais, sont une heureuse et nostalgique anomalie de l'histoire. On l'appelle aussi la Charte des Libertés de 1343, car le dauphin affaibli reprend la tradition des chartes antérieures des Moirans, 1164, de Grenoble, 1226. Le dauphin a besoin d'argent, il a beaucoup dépensé, il a beaucoup de maîtresses. Il attribue, moyennant une coquette somme, franchise et certaines libertés. Cette somme est quand même de 4000 ducats d'or chaque année. Cela d'ailleurs ne suffira pas à éponger ses dettes. Il devra se résoudre enfin un jour à vendre ses états dauphinois en 1349. Il vend ses états, son domaine, au second fils du roi qui prendra ainsi le titre de dauphin. Humbert signe donc en 1343 des transactions d'Humbert Dauphin avec les syndics et procureurs des communes, communautés, on disait à l'époque, du Briançonnais. C'est une dénomination juridique. Elle engage ses successeurs, notamment Charles V, Louis XI, Charles VIII, François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIII et jusqu'à Louis XVI, 1775. Puis vient la Révolution qui bouleverse tout ça. Mais cette Charte des Libertés a déjà marqué les territoires et donné aux élus ce sens des responsabilités. Et puis à Briançon, il y avait, n'oublions pas, les casernes. Des militaires qui consomment, instruisent leurs enfants. Par exemple, à la veille de la Révolution, on trouve de nombreux jeunes Briançonnais élèves de l'École royale de mathématiques de Paris, qu'on appelle aujourd'hui Polytechnique. Et n'oublions pas qu'un grand mathématicien, Bertrand Laveugle, qui hélas avait, comme moi, de grandes difficultés aux yeux, Bertrand Laveugle était un surdoué des maths à Briançon et a eu un rôle important à la Révolution. Et puis, avec la Révolution, la création des consuls, une véritable bourgeoisie se crée et s'installe, et le savant Horace Fine sera un produit de cette nouvelle classe sociale. Son père était médecin à Briançon, cette famille habitait à Villars-Saint-Pancras, et lui alla à Paris où il s'illustra, comme on l'a vu, dans l'astronomie. François Ier le menait dans tous ses déplacements, c'était un des savants les plus reconnus de l'époque. Même Turgot, plus tard l'aida dans ses recherches, pour rédiger un grand ouvrage. Donc l'Escarton de Briançon comprend 12 communes, Briançon, Montgenèvre et Val-des-Prés, Monnetier, La Salle, Névache, puis Saint-André, puis Saint-Pierre, Saint-Jaffré, Saint-Martin-de-Carrière, Servières, Valouise et Villars-Saint-Pancras. L'Escarton du Queyras, lui, comprend 7 communes, Abriès, Aiguille, Arvieux, Château-Queyras, Villevieille, Molines, Ristola et Saint-Véran. Enfin, l'Escarton d'Oulse comprend 21 communes, je ne les citerai pas toutes, Exil, Fénis, Mélézé, Milor, Molière, Houlz, Rochemolle, etc., etc., Salbertrand, Sauze de Cézanne, Sauze d'Oulx, Savoulx, Solomiac, Ture. Et pour terminer, l'Escarton de Château-Dauphin comprend 4 communes, Château-Dauphin, Château-du-Bois, Boursé et Menu. Et l'Escarton de Vaucluson, appelé aussi Pragella, comprend 7 communes, Fenestrelle, Grange, Mentoul, Pragella, Pourrières, Roure et Husseau. On peut noter donc que les communes que je viens de citer avaient plus d'autonomie qu'elles n'en ont aujourd'hui, sans vouloir polémiquer. Elles en avaient plus qu'en ont aujourd'hui nos communes, après les différentes lois NOTRe, etc., et l'installation des intercommunalités qui font en sorte que les maires ont une responsabilité de plus en plus restreinte. Voilà comment s'est développée l'histoire administrative de notre région. Mais il y avait donc les consuls, le pouvoir temporel, administratif. Mais au cours de l'histoire, il y avait surtout dans nos secteurs le pouvoir spirituel. En effet, dans cet univers particulier des montagnes sublimes où se côtoient surnaturel, merveilleux et sacré, naissent des déviances, des hérésies. Mais le pouvoir temporel de l'Église tout-puissant, aux mains des archevêques d'Embrun, ces princes archevêques d'Embrun qui ont commencé au IVe siècle avec Saint Marcellin et qui se terminent avec le dernier prince archevêque d'Embrun à la Révolution. Donc pendant plus de 1000 ans, ils dirigent le pays. Ils sont reconnus par l'empereur Constantin, déjà au 1er siècle de l'ère chrétienne. L'Église se bat contre un mal obscur et profond, la corruption, la simonie, le trafic d'influence, mais aussi l'hérésie, c'est-à-dire ces gens comme Pierre de Bruys de Valois et Pelvoux, qui contestent les dogmes. Ainsi, à partir de 1117, au XIIe siècle, Pierre de Bruys commence, par des prêches ardentes, à conquérir les âmes, trouble les esprits, déstabilise les prêtres. Alors, on sait peu de choses sur le développement de son credo, car on trouve peu de documents, sauf à Cluny, où l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, dans son traité « Adversus Petro Bruysianus » contre Pierre de Bruys, nous indique que cet hérétique avait été suspendu à cause de son manque de prudence dans l'expression de ses idées sur la doctrine chrétienne. En effet, dans ses sermons, il y a de quoi faire frémir le clergé de l'époque, puisqu'il rejette toute hiérarchie ecclésiastique, rejette le pouvoir du pape, le baptême des enfants, le culte de la croix, l'Eucharistie. En fait, ces croyances sont proches de celles que nous allons, quelques décennies plus tard, rencontrer avec les disciples de Valdo de Lyon, c'est-à-dire les Vaudois. Pierre de Bruys exige une église nouvelle. Il part donc de la Valoise, de Pelvoux, où il est né, Pelvoux, qui s'appelait à l'époque la Pisse, et il descend dans le Midi, et là il prêche, et des foules énormes le suivent. Pendant 20 longues années, il sillonne sans relâche le Languedoc, la Gascogne, la Provence, il enflamme les foules, et il évite tous les guet-apens. Il avait une prudence, une agilité de chasseur de chamois, pourrait-on dire. Mais un jour, le destin frappe. Le vendredi saint de 1133, la chance lui tourne le dos. Il sera brûlé vif, je dis bien brûlé vif, par la population de Saint-Gilles près de Nîmes. On lui reproche d'être entré dans l'église et d'avoir brisé les croix. Puis viennent d'autres hérétiques dans notre région, notamment le moine Henri de Lausanne, qui prend en quelque sorte la relève, convaincu que l'église de Rome est trop éloignée de l'idéal de rigueur et de pauvreté de l'Évangile. Il est chassé par son évêque, se réfugie dans nos vallées, devient prêcheur itinérant, puis il disparaît. Il renoue le contact avec Bernard de Clairvaux. Ils sont trop différents. Bernard de Clairvaux l'excommunie. Il est fait prisonnier près de Toulouse et réduit au silence. Sa mort se situe vers 1148. Il semblerait qu'il ait échappé au bûcher. Donc, ce courant, les Pietro-Brucciens, Pierre de Bruys, les Henriciens, Henri de Lausanne, sont rejoints par les Cathares, qui seront attirés au mouvement de Valdo. Ces pauvres de Lyon vont aider les Cathares en Languedoc, puis viennent se réfugier dans nos hautes vallées alpines. Valdo, lui, se cache dans le Queyras, puis s'en va et va finir ses jours dans les forêts de Bohême. Voilà, nous ferons une autre émission plus détaillée sur Pierre Valdo, les Vaudois, et nous parlerons aussi de cette antagonisme, cette vie parallèle entre Valdo de Lyon et François d'Assise. Car François d'Assise, comme lui, était un fils de riche soyeux. Il donne tous ses biens. Tous les deux placent leurs femmes dans un couvent et se mettent à prêcher. Mais François d'Assise fera la paix avec le pape, alors que Valdo, jusqu'à la fin de sa vie, un proscrit.
Merci beaucoup.